VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du jeudi 28 février 2019. Abdourahmane Dia et Raïssa Girondin à la présentation, voici le titre.
Au Sénégal, Macky Sall réélu président dès le premier tour avec 58% des voix.
Les Sénégalais savent que c'est dans les urnes et pas eux qu'ils choisissent leurs dirigeants et leurs responsables politiques.
En Libye, les pouvoirs rivaux se mettent d'accord pour organiser des élections selon les Nations Unies.
Le sommet Trump-Kim s'est terminé à Hanoï sans accord sur le programme nucléaire de Pyongyang.
Une enquête de l'ONU accuse Israël de crimes de guerre à l'encontre des Palestiniens.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au Sénégal, les résultats officiels provisoires ont été proclamés ce matin à Dakar. Le président sortant Macky Sall passe dès le premier tour. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
C'est désormais officiel, Macky Sall remporte le scrutin avec 58,27% des suffrages. Il est suivi du candidat Idrissa Seck avec 20,50% des voix. Le candidat Ousmane Sonko arrive troisième avec 15,67%, tandis que Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement est quatrième avec 0,7%. Enfin, le candidat Mody Kenyan termine cinquième avec 1,48% des suffrages. Ces résultats provisoires de la présidentielle ont été annoncés par Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar et président de la Commission nationale de recensement des votes. Sur les 6 683 043 inscrits, il y a eu 4 426 044 votants, 42 465 bulletins nuls et 4 383 879 suffrages valablement exprimés, soit un taux de participation de 66,23%. Ces résultats devront être ensuite confirmés ou infirmés par le Conseil constitutionnel après avoir étudié les éventuels recours. Si, du côté du pouvoir, on juge cette victoire logique, l'opposition, elle, conteste déjà la fiabilité de ces résultats qu'elle juge préfabriqués par le régime en place. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Et l'ancienne première ministre Aminata Touré est directrice de campagne de Macky Sall a parlé au nom de la coalition présidentielle. Elle félicite les acteurs de la démocratie sénégalaise et affirme que le président sortant a été réélu sur la base de son bilan.
Les Sénégalais savent que c'est dans les urnes et pas eux qu'ils choisissent leurs dirigeants et leurs responsables politiques. Au nom du candidat, le président Macky Sall, nous saluons également tous les candidats qui ont concouru à l'expression du suffrage universel. Mesdames, Messieurs, nous adressons nos chaleureuses félicitations à notre candidat et du président de la République, le président Macky Sall. Mesdames, Messieurs, notre candidat, le président Macky Sall, a obtenu les suffrages de 2 544 105 Sénégalais. C'est le fruit de son bilan, l'excellent bilan qu'il a accompli à la tête de notre pays pendant 7 ans.
C'était Aminata Touré, directrice de campagne de Macky Sall.
Le candidat Idrissa Seck, lui, parle au nom des 4 candidats de l'opposition. Il dénonce des manquements et affirme qu'ils ne feront pas de recours.
Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera seul à en assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Nous exprimons toute notre gratitude et nos félicitations au peuple sénégalais qui a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix.
La réaction du candidat Idrissa Seck.
Au Nigeria, au moins 29 personnes, dont un policier, ont été tuées dans de nouvelles violences intercommunautaires dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, déjà frappé par une série d'attaques mi-février. Les assaillants sont allés de hameau en hameau, incendiant des maisons et tuant des gens, a indiqué le chef de la police. Nous avons compté 40 maisons incendiées et beaucoup de personnes blessées, a-t-il ajouté.
République démocratique du Congo, 22 militants de Lucha, lutte pour le changement, arrêtés la veille à Goma dans l'est du pays, ont été transférés ce jeudi au parquet. Ils ont été arrêtés hier lors d'une marche pacifique organisée par Lucha pour dénoncer la léthargie des autorités face à l'insécurité qui a fait au moins 20 morts à Goma depuis le début de l'année selon ce mouvement.
Aux Comores, 11 candidats à l'élection présidentielle du 24 mars se sont organisés en collectif pour exiger un scrutin crédible et transparent. Ils disent redouter un hold-up électoral du président sortant Azali Assoumani. Il nous faut assurer une sécurisation du vote pour avoir des élections au-dessus de tout soupçon, crédible et transparente, a déclaré à la presse le porte-parole de l'opposition. Le collectif exige un comptage manuel dans tous les bureaux de vote en présence des représentants des candidats.
L'ONU fait état d'un accord sur l'organisation d'élections en Libye entre le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez al-Sarraj et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays. Eki Abadou.
L'accord a été conclu mercredi à Abu Dhabi sous l'égide de l'ONU, a indiqué dans un tweet la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de mettre fin à la période de transition à travers des élections générales, a déclaré la Manoul sans donner de calendrier. Au plan politique, le pays est divisé entre deux autorités rivales. Le GNA basé à Tripoli est dirigé par Fayez al-Sarraj. Dans l'Est, un cabinet parallèle appuyé par l'armée nationale libyenne est dirigé par Khalifa Haftar. En novembre, l'Italie, partenaire de la Libye, avait tenté sans succès un nouveau rapprochement entre les deux hommes lors d'une réunion à Palerme, en présence des pays impliqués dans le dossier libyen. Le maréchal Haftar avait boycotté la rencontre. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des luttes d'influence entre de nombreuses milices armées et des dizaines de tribus.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité à l'international, Donald Trump et Kim Jong-un se sont séparés sur un échec à Hanoï après leur sommet consacré à l'épineux dossier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour le président américain, c'est dû aux exigences nord-coréennes sur les sanctions. Les précisions de John Lyndon.
Le sommet devait donner un sens à la dénucléarisation après la déclaration commune signée lors de leur tête-à-tête historique à Singapour. À Hanoï, le président Trump a expliqué que les discussions ont échoppé sur la question des sanctions économiques infligées à la Corée du Nord pour ses programmes nucléaires et balistiques interdits. En fait, il voulait que les sanctions soient levées complètement, mais on ne pouvait pas faire ça, a déclaré M. Trump. J'aurais aimé aller plus loin, a-t-il ajouté, assurant toutefois que Pyongyang ne reprendrait pas ses essais nucléaires. Pour le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui accompagnait le président américain, les deux parties ont besoin de se réorganiser avant de se mettre d'accord sur une autre rencontre. Séoul a déploré un résultat regrettable, mais a relevé néanmoins des progrès. De son côté, la Chine a appelé Washington et Pyongyang à poursuivre leur dialogue, soulignant que la question nucléaire nord-coréenne ne pouvait pas être résolue du jour au lendemain.
Israël est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par une commission de l'ONU. Elle enquêtait sur les affrontements entre les militaires israéliens et des Palestiniens lors de la grande marche du retour dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a dénoncé un rapport hostile, mensonger et partial contre son pays.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter ce jeudi sur deux projets de résolution concurrents sur le Venezuela, l'un porté par les États-Unis, l'autre par la Russie. Tous deux sont voués à l'échec selon des diplomates. Le texte américain appelle à des élections présidentielles libres, justes et crédibles et à des livraisons d'aide humanitaire sans entrave au Venezuela. La Russie et la Chine dénoncent depuis le début de la crise l'ingérence occidentale dans les affaires internes du pays.
Le Pakistan va libérer demain un pilote de l'armée de l'air indienne capturé mercredi en un geste de paix à l'égard de l'Inde, ce qu'a annoncé son premier ministre Imran Khan après 3 jours de crise entre les 2 puissances nucléaires. L'Inde reste à un stade accru de vigilance face au Pakistan, selon le général de division Surendra Singh Mahal, malgré cette libération annoncée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanik Talani.
Le Sénégal vient de bénéficier de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique de 2 accords de prêt de 30 millions de dollars. Financial Afrique rapporte que le premier prêt de 10 millions de dollars servira au financement de projets dans le secteur privé. Le deuxième prêt est une facilité de crédit de 20 millions de dollars destinée à financer le commerce extérieur. L'État camerounais va emprunter 16,3 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale pour développer l'hydroélectricité de la Sanaga, selon Investir au Cameroun. D'après la Banque mondiale, ce pays possède le 3e plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique subsaharienne, estimé à l'heure actuelle à plus de 20 000 MW en capacité d'équipement, avec la rivière Sanaga fournissant près de la moitié du potentiel. Terminons avec Total et ses partenaires qui vont reprendre les forages sur le prospect de Brulpadda au large de l'Afrique du Sud en décembre. Brulpadda est une découverte de condensat de gaz qui pourrait contenir 1 milliard de barils de pétrole. Les coûts de forage baisseront à environ 100 millions de dollars par puits contre 154 millions de dollars pour le premier puits foré.
Et c'est l'heure du sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Tour du Rwanda, l'Érythréen Guirmé remporte la 5e étape.
Oui, Binyam Ailo Guimé a été le plus rapide lors de l'acte 5 couru entre Karongi et Mouzansé. Il a avalé les 138,7 km en 3h42 minutes 1 seconde devant le Rwandais Joseph Ariruya et le Tchèque Daniel Turek. Au général, son compatriote Merawi Kudus garde le maillot jaune et possède toujours 17 secondes sur Rain Taramaé et 45 sur Matteo Badilati. Moïse Mugisha est le porteur du maillot de la montagne. Roigne déploie celui du sprint. Didier Mounianessa garde celui de meilleur jeune. Il est aussi le meilleur Rwandais du Tour.
En athlétisme, Van Niekerk courra probablement à Doha.
Les choses vont dans le bon sens. Mon équipe est très patiente. Je pense sincèrement que j'y serai et que je serai capable d'être compétitif, a déclaré le Sud-Africain de 26 ans champion olympique du 400 mètres. Les mondiaux d'athlétisme auront lieu fin septembre à Doha. Van Niekerk a été victime d'une grave blessure à un genou lors d'un match de gala de rugby en octobre 2017. Début février, il a remporté un 400 mètres au championnat provincial de Bloemfontein en 47 secondes à plus de 4 secondes de son record du monde. C'était sa première course depuis son titre du 400 mètres et sa médaille d'argent sur 200 mètres en 2017 à Londres.
Football, la Supercoupe tunisienne aura finalement lieu en avril, Yakuba.
Oui, la Fédération tunisienne de football a finalement annoncé que la Supercoupe, initialement prévue le 24 février dernier, à Doha au Qatar, se tiendra en avril. Ce report est lié à l'inexistence de la société qui devait organiser le match. La Fédération avait signé un contrat avec Oravi World pour organiser la rencontre, mais il s'est avéré que cette société n'existe pas. Un scandale pour lequel les acteurs réclament le départ du président de la Fédération.
Et enfin, basketball, le Cameroun saisit les instances internationales contre la Côte d'Ivoire.
Oui, la Fédération camerounaise a saisi la Fédération internationale de basketball après la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde de basket prévue du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. Pour les Camerounais, la large victoire de la Côte d'Ivoire face au Nigeria 72 à 46 lors des éliminatoires qui viennent de se dérouler à Abidjan n'est rien d'autre qu'une mascarade. Réaction du président de la Fédération ivoirienne de basketball.
J'estime que nous avons gagné nos matchs sur le terrain. Tout le monde a vu les matchs, ils étaient télévisés. Je ne vois pas en quoi nous ne méritons pas notre qualification. Nos joueurs ont très bien joué, se sont battus. Ils étaient chez eux, ils avaient envie de se qualifier. Donc il n'y a aucune raison que ces joueurs-là ne se battent pas et ne fassent pas en sorte que leur orgueil leur permette de jouer le mieux possible afin de battre une nation comme le Nigeria, de battre le Rwanda et de battre le Mali. C'est du sport. Tout se passe sur le terrain, donc je ne vois pas pourquoi on irait crier au loup alors que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée normalement sur le terrain. J'insiste, sur le terrain de basket.
Mathieu Agui au micro de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan. La Côte d'Ivoire, meilleure troisième de ses éliminatoires au détriment du Cameroun, représentera l'Afrique à cette Coupe du Monde en compagnie du Nigeria, du Sénégal, de l'Angola et de la Tunisie.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
La Chine demande à Washington et Pyongyang de poursuivre leur dialogue, soulignant que la question nucléaire nord-coréenne ne peut pas être résolue du jour au lendemain. Le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump s'est achevé sans déclaration commune. Alors, est-ce que cet échec est vraiment une surprise ? Idriss Fall a joint à Paris Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire.
Non, ça n'était pas surprenant en soi, puisqu'il y avait quand même un certain scepticisme sur le contenu possible de ce second sommet, sachant que la dénucléarisation était un enjeu très, très complexe, très délicat à mettre en œuvre. Et on a bien compris que c'était un gage de survie pour le régime nord-coréen, et on ne voyait pas comment il pouvait accepter de démanteler son programme. Donc nous nous attendions quand même à des négociations assez longues, et c'est vrai que dans ce sens, le sommet de Hanoï est élu comme une étape et compris comme une étape qui permettait d'entretenir un dialogue qui aurait pu déboucher sur des engagements à minima. Et c'est vrai que peut-être la signature d'une déclaration, sur l'établissement d'un traité de paix, donc une déclaration sur la fin de la guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis, était attendue et aurait pu au moins donner l'occasion d'une signature commune.
Mais tout espoir n'est pas perdu, parce que peut-être aussi on peut aller vers un troisième sommet, non ?
Alors, chacun a tenu à sauver la face. Donald Trump, qui ne souhaite pas donner l'impression d'être resté sur un échec, s'est efforcé de faire bon visage. Mais je pense que la partie nord-coréenne est quand même assez échaudée, parce qu'on a bien compris que si Kim Jong-un se donnait la peine de prendre un train et de voyager pendant deux jours dans son train blindé, donc de sortir de chez lui pour venir à Hanoï, c'est qu'il pensait revenir avec au moins un allègement, une levée partielle des sanctions. Donc quelque part, il ne ramène rien, et c'est peut-être lui qui est le plus en difficulté par rapport à Donald Trump et aux attentes de ce sommet, parce qu'il va devoir expliquer, et je suis sûre que sa propagande s'en chargera, mais il va quand même expliquer pourquoi il n'a pas obtenu un allègement des sanctions. Or, il en a besoin, son économie est en piteux état, et finalement, il n'aura d'autre issue que de se tourner une nouvelle fois vers la Chine pour l'aider.
Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire.
Les grands projets de développement sont des facteurs de déboisement dans quatre pays d'Afrique centrale, au Cameroun, en République du Congo, au Gabon et en République centrafricaine. Réunis à Yaoundé, les organismes environnementaux de la sous-région et les partenaires internationaux de ce projet ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme sur le danger de la conversion des terres forestières en Afrique centrale. C'est un reportage à Yaoundé d'Emmanuel Jultap.
Le Gabon ambitionne devenir un pays émergent en 2025, soit 10 ans avant le Cameroun. Des ambitions qui imposent à ces deux pays la réalisation de grands projets d'investissement, causant par la même occasion la disparition des forêts. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, une ONG basée au Cameroun.
La construction d'un port, ce n'est pas une activité forestière. Mais quand ça se fait sur la zone forestière, cela se traduit par un défrichement de la forêt, en marge normalement des processus d'attribution distribution des terres forestières. On s'est rendu compte que la législation n'est pas suffisamment précise sur ce volet-là, qui devenait de plus en plus important dans notre pays.
Depuis 2008, plus de 3 millions d'hectares de terres forestières ont été concédés en Afrique centrale pour l'agriculture industrielle, la mine et les grandes infrastructures, affirment les ONG environnementales. C'est notamment le cas en RCA. Saint-Jérôme Sitamon, de l'ONG La Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmée.
L'exploitation minière, elle est censée par exemple être faite à une certaine distance de la route. Or les gens exploitent, ça rentre dans la route. Il y a des problèmes environnementaux graves. Il y a même des forestiers, n'est-ce pas, qui s'investissent dans l'exploitation minière alors que ce n'est pas dans leur mandat. Ces dérives-là, on a pu dénoncer.
Pour espérer réduire l'exploitation illégale et les changements de couvert forestier, dans le cadre d'investissements non forestiers, les législateurs d'Afrique centrale ont été intégrés dans le projet lancé en 2016. Cependant, le phénomène perdure. Jean-Jacques Zam, député et coordinateur Cameroun du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.
Il y a des gens qui disent qu'ils veulent investir, par exemple, dans l'agriculture, ils prennent des permis au niveau du gouvernement. Tout cela ne se traduit pas par des investissements non forestiers.
Quelques résultats probants ont été néanmoins enregistrés à travers l'activisme des ONG, en République du Congo par exemple, où la conversion des terres au profit des grands projets d'investissement a été réduite de 60%. Alban Ntiété, de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Il y a eu pas mal les activités agro-industrielles qui ont déboisé, notamment la société Ataman Plantation, qui aujourd'hui, vu les activités sont suspendues, et qui avait acquis une superficie de 500 000 hectares pour pouvoir mettre en place les plantations de palmeraies. Vous vous rendez compte que c'était vraiment une situation qui était criarde.
Selon les experts, seule une révision de la législation forestière peut réduire les risques d'exploitation forestière illégale et le changement de couvert forestier consécutif aux grands projets d'investissement en Afrique centrale. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Douga les Charognards est l'un des longs métrages en compétition au FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le film se penche sur le choc des cultures et plonge les cinéphiles entre tradition et modernité. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Le long métrage d'1h32, Douga les Charognards, a fait salle comble lors de sa grande première mercredi à Ouagadougou. Une heure avant la projection, les cinéphiles avaient déjà pris d'assaut la salle du Ciné Burkina. De quoi est-il question dans ce film? C'est l'histoire de Pierre. Selon la tradition, Pierre devait être le chef de terre de son village. Une offre qu'il décline. Il devient désormais chrétien. À sa mort, le sort du corps de Pierre divise les communautés. Son village le refuse. Les différentes communautés religieuses aussi. Son église estime qu'il n'a pas été baptisé avant sa mort.
Même dans la Bible, on a écrit là-bas. Quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui n'ira pas au paradis.
Et les musulmans, eux, disent qu'ils portent un nom chrétien. Pierre. Impossible donc de l'inhumer. Ce sont donc les Charognards, ce groupe de jeunes sans emploi, regroupés au sein d'un kiosque à café, qui va aider Rasmané, l'ami de Pierre, à l'inhumer. Une belle mise en scène qui prône le vivre ensemble.
C'est la non-acceptation de l'autre qui envoie en fait le rejet de l'autre.
Hervé-Éric Lengani, co-réalisateur du film.
C'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on le rejette. En fait, donc, à travers ce film, si vous avez vu, quand les chrétiens refusent de jeûner parce qu'il n'a pas un des attributs de sa communauté, les musulmans refusent parce qu'il s'appelle Pierre. D'autre côté, on refuse parce que. Pourquoi? Parce que uniquement, il n'est pas avec nous. On n'a pas appris à le connaître qu'on le refuse. C'est pour ça, en fait, qu'on le rejette. Alors qu'on n'a pas besoin de tous ces attributs, en fait, pour être ensemble. Nous sommes les différents sur cette terre. Vivons ensemble. Nous sommes les différents, ça ne voudrait pas dire en fait que l'un est supérieur à l'autre. Non. Nous sommes les différents, mais vivons ensemble. C'est ce message, en fait, c'est un message universel.
Charles Ouattara, acteur principal, Rasmané dans le film.
Pour moi, c'était un challenge d'avoir un tel rôle à jouer et d'avoir un tel humanisme à prouver.
Lazare Minungu, comédien, un des Charognards, Yang dans le film.
Il y a le choc culturel, il y a les religions qui ne s'entendent pas pour enterrer un mort alors que le mort il a besoin d'être enterré. Et ceux qu'on appelle les Charognards dans nous, voilà, finalement c'est nous qui avons une âme pour comprendre qu'un mort doit être enterré.
Des cinéphiles comme Mariam Sidibé sont séduits.
J'étais très très émue. Vraiment le film c'est comme ça.
un réel problème dans la vie.
Dougalé Charounia est l'un des trois films burkinabés en compétition, long métrage au FESPACO 2019. Rendez-vous samedi prochain pour savoir si ce film qui fait déjà le buzz sera primé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et on reste avec le FESPACO qui se poursuit à Ouagadougou et nous vous présentons ce soir Jean-Pierre Bécolo. Et d'après lui, le cinéma c'est avant tout une histoire de rencontres, des rencontres qu'il prend plaisir à raconter dans ses films à l'image de son tout dernier intitulé « Les armes miraculeuses » en sélection officielle au FESPACO. Jean-Pierre Bécolo explique également l'importance du FESPACO pour l'Afrique.
Je m'appelle Jean-Pierre Bécolo, je suis cinéaste camerounais. Je suis le réalisateur d'un certain nombre de films. Le premier, ce fut Quartier Mozart. Toutes sortes de films, des science-fiction, des documentaires, des drames, voilà. Les armes miraculeuses, c'est une histoire d'un condamné à mort entouré par trois femmes. Trois femmes qui défendent d'abord la vie. Et je pense que c'est un film avant tout sur l'esprit humain, la force de l'esprit face à... disons, à la méchanceté des hommes. C'est un film qui rappelle la négritude par son titre, Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire, mais surtout l'idée de se servir, disons, de la langue de l'oppresseur pour se libérer de l'oppression. Je crois que c'est une question intéressante, mais c'est surtout l'idée de défendre la vie contre la peine de mort. La peine de mort qui est ce que subit le noir sous toutes les formes, depuis l'esclavage jusqu'à ce jour. La mort est ce qui est prévu pour un noir, quel que soit le cas, qu'il soit coupable ou non.
They will kill my body. They can't kill my spirit.
Donc le film, pour moi, va bien au-delà de ce que nous voyons de l'histoire. C'est une métaphore et il pose la question de qu'est-ce qui va nous sauver. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin, représenté par une des femmes? Est-ce que c'est nous-mêmes, aussi représentés par une des femmes dans le film? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est la connaissance? Le FESPACO, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon premier film « Quartier Mozart ». C'est, disons, l'événement qui a fait de moi un Africain, un cinéaste africain, c'est-à-dire que les Ousmane Sembène, les Souleymane Cissé, les Djibril Diop Ambéty, ils nous faisaient ressentir la nécessité, l'importance d'être ce que nous sommes, d'appartenir à ce continent, de le défendre. C'est pas le regard des autres qui définit ce que nous faisons, parce que l'identification est importante, parce que le mimétisme est fort chez les jeunes, chez les enfants. Et je crois que il faudrait le positionner pour qu'il soit vraiment un enjeu de transformation de nos sociétés. Être primé au FESPACO est une marque de reconnaissance super importante.
Voilà, c'était Jean-Pierre Bécolo, réalisateur du film « Les armes miraculeuses » en sélection officielle au FESPACO.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ça va faire mal
quand nous serons unis.
Ça va faire mal
le Royaume-Uni.
Ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra contrôler. On sera respecté. On pourra dialoguer.
Et Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci Cheikh Thiéro à la présentation Abdourahmane Dia et Raïssa Girondin.
On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis.